والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chers frères, chers sœurs, salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Je suis à nouveau très honoré de pouvoir me retrouver avec vous dans le cadre de ce live hebdomadaire. Alors avant tout, je tenais à présenter nos excuses au nom de l'équipe du live pour ce petit retard, car je ne vous cache pas que j'ai eu du mal à venir à notre rendez-vous du live en raison de la grève qu'il y avait aujourd'hui et de la circulation très dense, très difficile. Alhamdoulilah, nous sommes quand même arrivés, c'est plus important. Donc en tous les cas, je tenais une fois de plus au nom de l'équipe à m'excuser quant à ce petit retard, inshallah. Barakallahu fikoum. Alors, pour ce qui est du rappel de notre soirée, je voudrais très rapidement le consacrer et le concentrer à l'arrivée de cet invité honorable que nous allons dans quelques jours accueillir, inshallah ta'ala. Comme vous le savez, le mois de Ramadan est à nos portes. Nous devons nous estimer heureux, vraiment très heureux, et remercier Allah Azzawajal et le louer d'être encore de ce monde pour pouvoir accueillir ce mois béni qui représente une nouvelle opportunité qui nous est offerte afin de se consacrer à notre Créateur Azzawajal, afin de se réformer, afin de s'améliorer, afin de donner une meilleure version de soi-même, Inch'Allah Ta'ala. Il faut que chaque année, on sente qu'il y a quelques lignes qui ont bougé, Inch'Allah, dans la bonne direction. Et Ramadan est une très belle opportunité pour aller dans ce sens, dans le sens de cette réforme, de ce changement, de l'éducation de son âme. Et je ne peux que vous souhaiter à toutes et tous un excellent mois de Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse agréer nos œuvres, qu'il accepte nos actions et notre jeûne, et qu'il nous accorde, Inch'Allah, de longues années encore pour que nous puissions encore vivre et revivre un événement aussi honorable comme celui-ci. Je pense que vous partagez avec moi le même sentiment. Ô combien est grande notre tristesse lorsque nous voyons le mois s'en aller. Lorsque nous arrivons dans les derniers jours de Ramadan, voire même le dernier jour, et que nous savons que le lendemain est le jour de la fête, je pense que la plupart d'entre nous sommes envahis par ce sentiment de tristesse. Parce que Ramadan, subhanallah, il a vraiment un climat tout à fait à part. Il y a une ambiance particulière qui s'étale et se développe durant ce mois. Notre vie, notre quotidien est rythmé de façon différente que par rapport au reste de l'année. Mais le fait d'être triste quant à la fin de Ramadan ne nous empêche pas de nous poser une bonne question, c'est de se demander, quand bien évidemment on n'est pas encore dans cette situation, parce que là nous allons accueillir le mois, mais dans le cas où nous serons déjà, ou plutôt quand nous serons déjà dans la fin ou vers la fin de ce mois, la vraie question c'est de se demander quel sera le résultat final avec lequel je vais quitter, faire mes adieux par rapport à ce mois vis-à-vis de celui-ci. Le prophète dans un hadith, il disait « Malheur à celui qui voit le mois de Ramadan entrer, puis le voit s'en aller sans que ses fautes ne lui soient pardonnées. » Et ça, c'est un drame. Et c'est pour ça que le calife bien guidé, le monarque juste Omeyyade, Omar ibn Abdelaziz, disait, il disait, « Laisse l'Eid, l'imen labis al-jadid. » La fête n'est pas due à celles et ceux qui portent de nouveaux vêtements. وَإِنَّمَا الْعِيدِ لِمَنِ اسْتَعَدَّ لِيَوْمِ الْوَعِيدِ. Mais la vraie fête, elle est réservée à celles et ceux qui se sont préparés à ce jour de la comparution, qui est aussi un jour de menace. Pourquoi un jour de menace? Parce que Allah Azzawajal dévoile toutes les œuvres des serviteurs. Il peut arriver malheureusement que certains d'entre nous n'aient pas des œuvres au niveau souhaité et escompté. C'est pour ça que la vraie fête, c'est lorsque le croyant voit dans l'autre vie qu'il a réussi. Amma Ramadan, quant à Ramadan, il se répète chaque année. C'est nous qui allons peut-être partir un jour, mais le mois de Ramadan, lui, va encore se présenter, encore et encore et encore. Prions le Seigneur de pouvoir nous accorder la force nécessaire pour pouvoir jeûner ce mois, pour pouvoir améliorer et surtout renforcer notre intention, améliorer notre conduite, et en espérant, Inch'Allah, être meilleur. C'est, je pense, la demande et la quête qui interpelle tout un chacun parmi nous, Inch'Allah, et vers laquelle on doit tous aspirer. Alors, je n'ai pas vraiment de questions de la soirée, si ce n'est que je voulais vous annoncer que ce live d'aujourd'hui est le dernier live avant l'entrée du mois de Ramadan. Toutefois, durant ce mois, il y aura, Inch'Allah, quelques capsules qui seront diffusées sur ma page Facebook, mais aussi sur ma chaîne YouTube, Inch'Allah Ta'ala. Je suis encore en train de travailler sur le plan de ces différentes petites interventions et les thématiques également qui seront abordées, qui seront quelque peu diverses. Inch'Allah, une communication sera faite afin de vous annoncer et la nature des thèmes qui seront traités et aussi, bien évidemment, les moments durant lesquels ces fameuses capsules seront diffusées. Passons dès à présent à la première question de notre live. Un frère dit, j'aimerais tant aller accomplir le Hajj, Inch'Allah, ces prochaines années, dès que j'en aurai les moyens. Mais j'ai contracté un crédit il y a 3 ans pour l'achat d'un appartement avec riba, donc avec un crédit usuraire. J'entends certains imams dire que le Hajj ne sera pas accepté si l'argent n'est pas pur. Si je dois attendre que mon crédit se termine, j'aurai 58 ans et encore, si je suis toujours en vie ou que je sois en bonne santé pour pouvoir accomplir le pèlerinage. Qu'en pensez-vous? Alors, la réponse à cette question consistera à dire qu'il est vrai que l'une des conditions pour faire le Hajj, pour accomplir le Hajj, l'une de ces conditions, c'est que les moyens de subsistance que nous avons et le capital que nous avons également, que nous allons également investir dans le Hajj, et surtout ça, doit être un capital licite. C'est la condition, parce qu'il y a, c'est un acte d'adoration par lequel on se rapproche d'Allah Azzawajal. Il y a un acte d'adoration aussi noble et louable que le Hajj ne peut pas être financé à partir d'un capital qui est malheureusement qui est corrompu par l'illicite. Donc ça, c'est vrai. Ce que dit notre frère est tout à fait vrai. Néanmoins, j'ai quand même envie d'apporter une certaine précision par rapport à la situation que rencontre notre frère et même beaucoup d'autres familles. Le fait d'avoir un crédit bancaire n'empêche pas d'aller faire le Hajj. N'empêche pas d'aller faire le Hajj, bien sûr, à la condition d'avoir regretté ce geste. Si le frère qui pose la question, et ça vaut aussi pour d'autres personnes qui souhaiteraient aller faire le Hajj, Inch'Allah, si la personne a regretté le geste qu'elle a commis, elle peut aller faire le Hajj. Elle fait attention à ce moment-là au capital qu'elle va investir, que ce soit un capital qu'elle a gagné de son labeur, un capital licite. Elle peut ensuite investir pour financer son départ afin d'accomplir le pèlerinage, Inch'Allah Ta'ala. Tout en terminant, bien sûr, en terminant de payer son crédit. L'un n'empêche pas l'autre. Là où la difficulté, c'est que si nous avons des gens qui ont contracté un crédit usuraire et qui n'ont aucun problème de conscience et qui vont comme si de rien n'était, ils vont accomplir le Hajj. Ça, c'est beaucoup plus délicat. Mais si on est dans une posture de se réformer, de se racheter par rapport à Dieu, de se repentir, mais qu'en même temps, on a encore un crédit qui est en cours, ben, il est clair que le crédit est en cours, c'est une dette. Je m'en suis repenti entre-temps. Je regrette mon geste, je peux aller faire le Hajj sans problème en utilisant, comme je l'ai dit, un capital licite pour financer ce voyage très important qui est le voyage d'une vie. La question suivante, est-il permis d'écrire une histoire totalement fictive dans un monde imaginaire avec des pays qui n'existent pas? Le tout dans une cartographie inventée. De ce que j'ai pu voir, Cela est permis si l'histoire transmet de bonnes valeurs et leçons. Ce que j'essaye d'appliquer avec les protagonistes. Mais j'aimerais avoir votre avis sur la question. Et par la suite, est-il également permis de faire éditer cette histoire en livre, par exemple? La question de rédiger des récits ou des histoires fictives, quand bien même elles sont porteuses de leçons et de sagesse, cette question a fait débat entre les gens de science, anciens et contemporains. Certains ne l'ont pas permis ou ne l'ont pas permise parce qu'ils prétendent, ils avancent que ces récits sont faux et n'existent pas. D'accord? Ce sont des récits entre guillemets mensongers. D'autres gens de science, parmi lesquels nous trouvons un éminent savant appartenant à l'école hanafite, Ibn Abidin, rahimahullah, d'origine syrienne, lui, il est d'avis que les récits fictifs sont tolérés, sont acceptés, si l'objectif est de diffuser des messages positifs. Et parmi les arguments qui sont avancés, le fait qu'il y a dans la littérature arabe, il y a dans la littérature arabe des récits fictifs. Que les poètes, les hommes de lettres, arabophones, je ne dis pas arabes parce que certains étaient perses, indiens, musulmans, donc je dis arabophones, à travers l'histoire de l'islam, ils ont produit une riche littérature dans ce sens-là. On a beaucoup de livres de littérature arabe dans lesquels il y a des récits dont on n'a pas vraiment de preuves que ce fait a vraiment existé. Mais l'objectif de l'auteur, c'était que ses lecteurs retiennent la leçon de l'histoire. Néanmoins, certains contemporains sont d'avis à ce que celui qui rédige ou celle qui rédige des récits ou des histoires fictives fasse quand même un signalement en préambule de son ouvrage pour indiquer que, bien sûr, ces récits sont tout à fait fictifs et que l'objectif, c'est de pouvoir retenir la leçon. Donc, Inch'Allah ta'ala, ça ne pose aucun problème. Et les récits aujourd'hui parlent beaucoup aux enfants, et pas seulement aux enfants, parce qu'ils sont riches en leçons, et surtout si ces récits sont là pour promouvoir la bonne moralité, la bonne conduite, les relations familiales, et ainsi de suite, et la piété aussi, par-dessus tout. Quoi de meilleur que ces récits-là, Inch'Allah ta'ala, Inch'Allah, ça ne posera aucun problème. Surtout si le récit est entièrement fictif. Là où certains ont émis aussi des réserves, c'est que si le récit a existé dans l'histoire, mais que l'auteur a décidé de le déformer pour les besoins de la fiction. Donc il a dénaturé l'histoire. Ça posera problème. Mais s'il plante un décor, mais que les personnages sont vrais, par exemple, ce qui n'est pas vraiment le cas ici de la question. Le décor est fictif, mais les personnages ont réellement existé. Là, il n'y a pas de problème. Donc voilà, je pense que cet avertissement dans ce genre de récit fictif ou histoire fictive, ce genre d'avertissement signalé par certains gens de science sera certainement le bienvenu, à mon point de vue, wallahu alam. Et bien sûr, cela signifie que ce genre d'ouvrages peuvent être sans problème édités pour le grand bonheur des enfants et des ados particulièrement qui aiment les histoires et aiment aussi les entendre et les raconter. Les entendre, les lire et les raconter, Inch'Allah ta'ala. Donc ça ne pose pas de problème, bidnillah. Un frère s'interroge. Je me suis marié, dit-il, avec une femme qui s'était séparée de son mari au Maroc, d'un mariage précédent là-bas. Elle n'a plus de contact avec lui, donc avec son mari, depuis des années. Mais elle est toujours mariée avec lui dans les papiers officiels au Maroc. Récemment, on m'a dit que ça posait problème. Est-ce vrai? Et si c'est le cas, que dois-je faire? Alors, si cette femme, cette épouse, est toujours liée à son ancien mari, je ne dirais pas ex parce qu'on ne connaît pas vraiment la situation, ou à son mari tout court, quand bien même elle n'a plus de contact avec lui depuis des années, mais qu'il existe un document de mariage officiel qui a été émis par une autorité locale musulmane, comme c'est le cas ici, à savoir au Maroc, ça compte pour un mariage. Quand bien même le mari a disparu ou il n'y a plus de contact entre les deux conjoints. C'est un mariage. Et on ne peut pas venir contracter un mariage, même si cette femme n'a plus de nouvelles, entre guillemets, de son mari depuis des années, on ne peut pas venir contracter un mariage sur un mariage. Ça, c'est une chose. L'autre élément, maintenant, comment qualifier cette situation dans laquelle se trouve ce frère? Est-ce qu'il est dans l'illicite? Est-ce qu'il est que Dieu nous en préserve dans l'adultère ou la fornication? En fait, ce type de mariage, qu'il a contracté par ignorance, on appelle ça dans le droit musulman nikah shubha. C'est un mariage ambigu. Pourquoi? Parce que il y a certaines de ces conditions qui ne sont pas remplies. D'accord? Certaines de ces règles ont été bafouées. Et si ce frère, après je n'ai pas de détails en tout cas dans la question, mais j'avance quand même ce point au passage, si ce frère a eu un ou des enfants avec cette épouse qui est encore liée avec un autre mari au Maroc, via un document officiel qui compte pour un mariage, mais que lui ne savait pas. Il pensait que le fait qu'elle n'a plus de lien avec lui, qu'il a disparu le cas échéant, qu'il pouvait l'épouser. Les enfants issus de cette union ne sont pas des enfants illicites. Ce ne sont pas des enfants illégitimes, pour être plus précis. Parce que le mariage ambigu, nikah shubha, c'est un mariage qui est un peu à la frontière entre le permis et ce qui n'est pas permis. Mais il est clair qu'à partir du moment où le frère prend conscience qu'il est dans l'erreur, il doit tout faire pour réparer la situation. Et c'est là que va se poser le problème. Alors j'espère que le frère n'a pas d'enfant avec cette femme, en tout cas pas pour le moment, mais c'est là que va se poser le problème, si il a des enfants avec elle. Et pour cette raison, ce qu'il doit faire maintenant, c'est il doit se séparer de cette femme, parce qu'ils ne sont pas mariés islamiquement parlant. Et il doit, ou plutôt la sœur en question, l'épouse, enfin, entre guillemets l'épouse, se doit d'entreprendre toutes les démarches nécessaires, quitte à faire appel à un avocat au Maroc, pour obtenir son divorce. Elle doit tout faire pour avoir son divorce, même si c'est un juge qui doit le prononcer. Elle devra se renseigner pour les démarches, de manière à ce qu'une fois qu'elle a ce document-là, s'ils veulent se remettre ensemble, à ce moment-là, ils pourront, inchallah, se marier sans problème. En réalité, si on regarde plus loin, quand bien même il a eu des enfants avec elle dans cet intermède, s'ils se remettent ensemble après, ça ne va pas vraiment poser problème en réalité. Mais bon, il est toujours mieux dans ce genre de situation. Le meilleur cas, c'est de ne pas en avoir pour le moment, en tout cas. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça, inchallah. La question suivante. Une femme divorcée peut-elle se marier sans l'accord de son père? Celui-ci en effet refuse de donner son accord car on dire le nouveau prétendant est un reconverti. Est-ce une raison valable? Dans la question de notre sœur, il y a deux aspects. Le premier aspect touche au refus du père. Là-dessus, moi, je ne sais pas me prononcer. Parce qu'il faut pouvoir savoir et surtout sonder les raisons qui ont poussé le père à refuser, on va dire, le mariage avec un reconverti. De façon générale, je dirais qu'il y a deux options possibles d'expérience. La première option, c'est que le papa refuse de donner sa fille à un reconverti parce qu'il a des doutes. Des doutes sérieux, attention, des doutes sérieux sur la conversion de la personne. Parce qu'effectivement, il arrive quelquefois que certaines personnes se convertissent à l'islam, mais elles ne sont pas vraiment intéressées par l'islam, elles sont plus intéressées par le mariage avec la jeune femme musulmane. Si le papa a des doutes sérieux, et à partir de ces doutes sérieux, il a refusé de donner suite à cette demande de ce jeune homme, ben, devant Dieu, c'est tout à son honneur. La deuxième option, le père refuse parce qu'il craint le qu'en dira-t-on, pour des raisons purement culturelles. parce qu'il est européen, parce qu'il est occidental, ou peut-être africain aussi parfois, converti à l'islam. Qu'on veut dire les gens de la famille, c'est pas notre culture, ça c'est du racisme, ça n'a pas d'autre nom. On ne va pas tourner autour du pot, ça c'est du racisme. Et c'est même discriminant. Si le papa refuse pour cette deuxième raison, il est clair qu'islamiquement, il est en tort. On ne prend pas de gants pour le dire, il est en tort. Ça c'est pour le point concernant le motif qui pourrait expliquer le refus du père. Maintenant, je viens à l'autre angle de la question, à savoir, si je reprends ici la question, c'est que la sœur se demande est-ce qu'elle peut se remarier sans l'accord de son tuteur? La réponse est non. Parce que les hadiths prophétiques qui parlent de l'obligation du tuteur, ce sont des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de différence entre une jeune fille et une jeune femme qui a déjà été mariée, qu'elle soit divorcée ou veuve. Il ne fait pas de différence. Le prophète n'a pas fait de différence. Et la portée générale de ces hadiths, comme par exemple quand le prophète sallam dit la nikah illa bi wali, il ne peut y avoir de mariage valide, accepté, qu'en présence du tuteur. Le prophète n'a pas donné de détails. Est-ce que c'est une jeune fille? Est-ce une femme qui a déjà été mariée? Il n'a pas différencié. Donc là, les juristes partent, en tout cas de l'avis majoritaire des savants, partent du principe que la portée de ce hadith et d'autres est une portée générale. D'accord? L'afdun am est une portée générale qui couvre de facto toutes les situations, qu'elle soit jeune fille, donc à savoir qu'elle n'a jamais été mariée, ou qu'elle est divorcée, ou encore qu'elle est veuve. Quelle que soit la situation, la présence du tuteur est une condition sine qua non selon l'avis majoritaire des savants, et c'est ça qui paraît, inchallah, le plus juste. Donc, dernier point par rapport à cette question, j'ai envie d'encourager notre sœur déjà à ne pas perdre espoir. Et si le papa a motiver son refus pour des raisons purement culturelles, par peur de ce que vont dire les gens dans la famille autour de soi, il faudra essayer de voir via d'autres intermédiaires, des gens de la famille, pourquoi pas un imam qui connaît le papa, qui pourrait discuter avec lui, le faire raisonner, afin qu'il puisse se rétracter de sa décision, qui effectivement dans ce cas présent est injuste. Sur la deuxième option, je précise. La question suivante, je dois prendre un médicament qui contient de l'alcool polyvinylique. Que dois-je faire? Car je n'ai pas encore osé le prendre. Il faut savoir que la présence d'alcool dans un médicament, Inch'Allah, ne posera pas problème. C'est une question qu'on a déjà abordée précédemment. Il ne pose pas problème, plutôt la présence de cet alcool ne pose pas problème. Pour quelle raison? Tout simplement, parce que déjà les quantités sont extrêmement infimes, premier élément. Deuxièmement, on va dire ce composant, donc l'alcool dans cette petite quantité, il se mélange avec d'autres substances et il est absorbé par les autres substances. Il n'y a personne, en tout cas, à ma connaissance, qui a bu une certaine quantité de médicaments dans lequel on retrouve de l'alcool et qui est devenu ivre et qui s'en est enivré. Ça n'existe pas. Après, bien évidemment, si le frère ou la sœur qui prend ce genre de traitement, s'il peut ou elle peut trouver un traitement alternatif dans lequel il n'y a pas de substance alcoolisée, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Pour s'éloigner du doute. Mais s'il n'y en a pas, que c'est le seul type de traitement dans lequel on trouve cet alcool-là, d'abord, comme je l'ai dit, ça ne posera pas de problème parce qu'il n'y a personne qui est devenu ivre en prenant des médicaments. La substance s'est retrouvée absorbée en étant mélangée avec les autres. Et deuxièmement, ici, c'est une nécessité médicale. Voilà ce qu'il en est de la réponse à cette question, Inch'Allah. Un couple marié récemment décide de divorcer sans avoir été en ménage, en parenthèse, mariage non consommé. La dot n'avait pas encore été remise. L'épouse a-t-elle droit à la dot complète ou à la moitié de celle-ci? C'est une très bonne question. Ce qui va éclairer la réponse à cette question, c'est le point suivant. La question que ce frère et cette sœur, ce couple, doit se demander, ont-ils eu tous les deux un moment d'intimité? Qu'est-ce que j'entends par moment d'intimité? En arabe, on désigne ça par le terme de al-khalwa. J'entends par un moment d'intimité, à savoir que ce couple, donc ces deux conjoints, se sont retrouvés seuls dans une pièce fermée et personne n'entre près d'eux. Il n'y a que deux. Alors, si c'est le cas, je ne parle pas d'une pièce ouverte où il y a du va-et-vient. Imaginons que le jeune homme va chez son épouse, il vient lui rendre visite chez ses beaux-parents, par exemple, ou qu'elle vient chez la famille de son mari et que c'est des pièces ouvertes, il y a du va-et-vient. Non, je ne parle pas de ça. Je parle d'une pièce qui est fermée. D'accord? La porte est fermée. Et personne n'entre chez eux. Ils sont tout seuls. Si c'est le cas, donc ils sont isolés, personne n'entre parmi eux. Si c'est le cas, l'avis majoritaire des savants considère que non seulement la dot est due dans son entièreté, et deuxièmement, cette femme, cette épouse, devra observer ce qu'on appelle la période de viduité, el-idda. Son cas se base, sur quoi se base cet avis majoritaire des savants? Il se base en fait sur un verset, qui est le verset 21 de la sourate les femmes, sourate An-Nisa, dans lequel le Seigneur dit « وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ». Comment oseriez-vous, dans la traduction, comment oseriez-vous le reprendre, donc reprendre le mahr, la dot, « وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ », alors que l'union intime vous a associé l'un à l'autre. Ce qui signifie qu'ils se sont retrouvés seuls. Donc ce verset ne parle pas de consommation de mariage, à savoir de rapport charnel. Il indique qu'ils se sont retrouvés seuls, dans une totale intimité. Et sur base de ce verset, les gens de science, dans leur avis majoritaire, ont appuyé le fait que la dot est due dans son entièreté, s'il n'avait pas déjà été donné. Et deuxièmement, il y a une idda, une période d'ubiduité pour cette femme. Cet avis est aussi celui qui appartient à la sentence appliquée par les quatre califes bien guidés que sont Abou Bakr, Omar, Othman et Ali. Que Dieu les agrée tous. Comme le rapporte l'imam Ahmed, d'après As'ad ibn Zurara, qui dit que les quatre califes, lorsqu'ils étaient confrontés à des couples qui ont connu une intimité, mais on ne sait pas exactement est-ce qu'il y a eu un rapport charnel entre eux, mais ils ont connu cette intimité, ils ont été totalement isolés. Ces quatre califes ont prononcé leur sentence en précisant à ces couples que la dot est due et que la idda, la période de viduité, sera observée par l'épouse. En fait, si vous voulez, c'est comme si cette période, on va dire ce moment d'intimité, c'est comme si quelque part, il se substitue à la consommation du mariage et au rapport charnel qu'il aurait entre eux. Ça, c'est l'avis majoritaire des savants. L'imam Shafi'i, de son côté, ne partage pas cet avis. L'imam Shafi'i dit, s'il n'y a pas eu de rapport charnel entre les deux conjoints, et que la dot n'a pas été donnée, le mari, et qu'il y a divorce après, le mari se devra de donner uniquement donc la moitié de la dot. D'accord? Et cette femme n'aura pas de période d'ubiduité à observer. L'imam Shafi'i en veut pour preuve un verset coranique qu'on nous retrouve dans la sourate, les coalisés, sourate Al-Ahzab, verset 49, dans lequel le Seigneur dit, Ya ayyuhalladhina amanu, إذا نكحتم المؤمنات, ô vous les croyants, si vous épousez les croyantes. Faites attention à la suite. ثم طلقتموهن, et qu'ensuite vous les avez divorcées. فما لكم عليهن من عدة من باردون. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. Ô vous les croyants, si vous épousez des croyantes et que vous les divorcez ensuite, sans les avoir touchées, autrement dit, sans avoir eu un rapport charnel avec elles, elles n'auront pas, vous ne pouvez pas, vous en tant qu'époux, vous ne pouvez pas leur imposer une période de viduité, une période d'attente. Les fameux trois menstrues qui marquent la fin de la relation entre les deux conjoints. Imam Shafi'i s'est basé sur ce verset pour indiquer que tant qu'il n'y a pas eu de rapport charnel entre eux, il n'y a pas de période de viduité, et si la dot n'a pas été donnée, ce sera la moitié, et s'il a été donné, l'épouse remettra la moitié, à moins que le mari n'abandonne le reste de cette dot. Cependant, la vie, Inch'Allah, qui semble le plus juste, c'est la vie majoritaire. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a ce verset, quand bien même Shafi'i a aussi un verset de son côté, mais la vie majoritaire est appuyée par autre chose, par la pratique judiciaire des quatre califes bien guidés. Et ces quatre califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, non seulement ce sont des compagnons du prophète sallam, mais tous les quatre sont des juristes, des fuqaha, qui connaissent très bien les enseignements révélés et qui ont côtoyé suffisamment le prophète sallam pour comprendre et saisir l'esprit de la loi que le prophète a reçue et sa philosophie. Et certains gens de science disent même que le fait que ces quatre califes aient tous prononcé la même sentence lorsqu'ils ont été confrontés à des couples qui ont connu juste une intimité, mais dont on ne sait pas s'il y a eu consommation du mariage, autrement dit acte charnel, ces quatre califes ont tous prononcé le même jugement. Et pour certains gens de science, ceci s'apparente à une forme de consensus qui était existant parmi les compagnons, parce qu'il n'a pas été contesté par un compagnon qui aurait peut-être contredit l'un des califes en disant « Non, le prophète aurait fait autrement », ce qui n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que l'avis majoritaire est beaucoup plus appuyé, soutenu sur le plan argumentaire, Inch'Allah ta'ala. La question suivante. Une femme souffre de perte de gaz fréquente suite à une maladie. Elle ne garde jamais ses ablutions et les perd même en pleine prière. Que doit-elle faire? Et son statut est-il identique à celui de la personne qui souffre de perte permanente d'urine? Avant tout, nous invoquons Allah Azzawajal qu'il guérisse notre sœur, parce que là nous sommes confrontés ici, à travers la question, à une situation qui est maladive. Elle n'est pas exceptionnelle. À partir du moment où elle a souvent des pertes de gaz et que c'est dû pour une raison maladive, que doit faire cette femme? Elle doit tout simplement refaire ses ablutions pour chaque prière. Et quand bien même elle perdrait ses ablutions pendant la prière, elle continue sa prière comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce qu'ici nous sommes face à ce qu'on appelle une peine, une mashaqa, une contrainte. Et la règle du droit islamique dit Al-mashaqqatu tajlibu taysir. La difficulté entraîne la facilité. Donc ici, son cas s'apparente effectivement à celui qui a ou celle qui a des pertes permanentes d'urine, mais elle s'apparente aussi à un cas que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a traité, qui est celui de la femme qui a ce qu'on appelle des métrorragies. Après sa période de menstrue, elle a encore des pertes de sang. Et même pendant sa prière, elle a des pertes de sang. Bien, le prophète avait recommandé à ces femmes de recommencer leurs ablutions pour chaque prière. C'est la même chose ici pour cette sœur. Elle refait ses ablutions et elle ne fait pas attention à ce qui se passe entre le moment des ablutions et le moment où elle les perd, voire elle les perdrait éventuellement pendant la prière. Elle ne doit pas en tenir compte. Sinon, elle ne va jamais s'en sortir. Elle va à chaque fois recommencer ses ablutions et en fait, elle risque même d'abandonner la prière parce que ça devient intenable. Et les enseignements révélés ne sont pas là pour rendre les choses contraignantes. Surtout dans des cas de force majeure, dans des cas de force majeure comme celui-ci, il faut chercher une facilité. Et la facilité existe, et plus que ça, nous avons un cas d'étude qui remonte à l'époque du prophète sur une autre situation, comme je l'ai indiqué, qui est celui des maîtres Ragis, qui va venir confirmer les exemples que nous venons de donner par rapport aux pertes permanentes d'urine et aussi aux pertes de gaz pour ce qui est de la question de notre sœur. Je dois sortir ma zakat, nous dit un frère. Puis-je en donner davantage ou dois-je me restreindre à ce que je dois religieusement? C'est une très bonne question. Alors si le frère a fait son calcul, imaginons qu'il a fait son calcul et qu'il est redevable de 200 euros. D'accord? Il répond à toutes les conditions de la zakat. Il a aligné son calcul sur le calendrier hégirien, c'est une chose très importante. Il applique le taux de calcul de 2,5% et il dégage le quote-part dû de la zakat, imaginons que c'est 200 euros. Ces 200 euros, c'est ce qu'il doit exactement, et ce qu'il doit donner, ce qu'il doit à ses bénéficiaires et ce qu'il doit donner en même temps. Mais lui décide d'ajouter 50 euros. Dis-moi, je vais donner 50 euros. Alors, s'il ajoute ces 50 euros, il doit considérer dans son intention que ces 50 euros ne font pas partie de la zakat. Parce que la zakat est un acte adoratoire, amalun ta'abboudi. Et vu qu'il s'agit d'un acte adoratoire, il doit être respecté dans ses modalités. Si je dois donner une zakat de 200 euros, je ne peux pas en donner ni plus ni moins. D'accord? Parce que c'est ça, c'est exactement cette somme-là que je dois. Donc la modalité, elle vient, si vous voulez, confirmer la règle religieuse qui consiste à dégager cette somme pour la donner à ses bénéficiaires. Et les 50 euros, imaginons que la personne donne on va dire, ce surplus, dans son intention, elle doit considérer ça comme étant une aumône. Voilà, je ne peux pas ajouter plus que ce que je dois. D'accord? Et ça part aussi d'un autre principe, qui est que les biens du musulman sont sacrés. Ils sont inviolables, intouchables. C'est pour ça que la zakat en est une exception. Pourquoi? Parce que la zakat, c'est un droit des bénéficiaires sur les biens des gens aisés. C'est la seule exception où, entre guillemets, on viole les biens, ou plutôt les biens ne sont plus intouchables, en vertu des enseignements révélés. D'accord? Sinon, je ne peux pas ajouter davantage. Sauf si j'y consens et que je considère ça, comme je vais l'indiquer, comme étant une aumône. J'ai l'impression avoir oublié une question. J'ai l'impression. Oui, j'ai oublié une question. À l'approche du mois de Ramadan, peut-on décorer sa maison ou les locaux de son association pour honorer Souma Béni et le faire connaître et aimer davantage aux enfants? Oui, Inch'Allah, ça ne posera aucun problème parce que la décoration, en évitant les images qui ont, on va dire, qui ont une forme humaine ou animale, pour la raison que l'on sait, mais si on décide de décorer l'appartement ou la maison ou les locaux d'une association, pour honorer ce mois et pour le faire aimer auprès des enfants, à enfants et adolescents, c'est très bien. Et là, nous sommes dans ce qu'on appelle l'ada. Nous sommes dans une habitude. D'accord? Et l'habitude, le principe juridique qui la régit, c'est la permission. Tant que nous n'avons pas un texte coranique ou prophétique qui vient de manière explicite barrer la route à une habitude quelconque, donc qui vient l'interdire, le principe qui régit une habitude, c'est la permission al-ibah. Et c'est le cas ici. Et ô combien nous avons besoin d'honorer nos événements, surtout dans nos sociétés occidentales où il y a différentes cultes, il y a différentes traditions. Il y a différentes cultures, et d'ailleurs toutes les composantes de notre société, quand un événement important arrive, religieux ou culturel, ces mêmes composantes de la société les mettent en évidence. Alors pourquoi nous, qui sommes aussi une composante importante de la société, pourquoi ne ferions-nous pas la même chose pour honorer nos événements à nous, parmi lesquels nous retrouvons Ramadan, voire aussi la fête de fin de Ramadan et la fête du sacrifice. Donc ça posera, Inch'Allah, aucun problème. Voilà, c'est une question qui m'avait échappé, effectivement. J'en viens maintenant à la toute dernière question. Un frère dit, un ami m'a mandaté de donner sa zakat à une personne qu'il m'a désignée. Mais après enquête, il s'est avéré que cette personne ne mérite pas la zakat, car elle n'était pas dans le besoin. J'ai donc décidé de donner la zakat à une autre personne qui y avait droit, mais sans en informer le mandant. Le mandant, c'est celui qui a mandaté. D'accord? Ai-je bien fait d'agir ainsi? Cette question, elle est pertinente parce qu'elle renvoie à une autre question qui est celle de la limite de la responsabilité de ce qu'on appelle le mandataire. Donc le mandataire, c'est la personne qui était déléguée par le mandant, celui qui donne comment dirais-je, qui fait procuration orale ou écrite, à quelqu'un pour qu'il se charge d'une tâche, d'une mission. Où est la limite du mandataire? Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Il y a eu débat sur cette question. Mais Inch'Allah, l'avis qui semble le plus juste, c'est que si ce frère-là, ce mandataire, après enquête et vérification, il s'avère que le fait de donner la zakat à cette personne-là n'était pas approprié parce qu'elle n'a pas besoin de la zakat, et que probablement son ami, le mandant, n'était peut-être pas au courant de toute la situation de cette personne désignée pour recevoir la zakat, le mandataire, par intérêt pour la destination de la zakat, peut la donner à quelqu'un d'autre, sans même en aviser le, comment dirais-je, le mandant. Et ça, c'est entre autres l'avis d'un grand juriste hanafite qui s'appelle Al-Kassani dans son livre Bada'i'u As-Sana'i'. Cependant, il est toujours plus sain, plus sûr, plus sage aussi, d'avertir celui qui vous a mandaté pour remettre les zakats, de l'informer, dire voilà, écoute, tu m'as demandé de me charger de faire parvenir ta zakat à une personne que tu as désignée, mais il s'avère que cette personne-là n'est pas dans le besoin, et de ce fait, elle n'a pas besoin de cette zakat, mais il veut la donner à quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus simple. Pourquoi? Parce que si demain, celui qui vous a mandaté apprend que vous ne l'avez pas donné à la personne que lui a désignée, ça peut créer une certaine tension entre vous. Ça, c'est dans le cas où le mandant, donc celui qui accorde, qui délègue quelqu'un pour une tâche particulière, si le mandant désigne quelqu'un, si le mandant ne désigne personne, il vous dit, voilà, écoute, voilà une somme, je te charge de la donner à des bénéficiaires, mais il ne les a pas désignés. Là, alhamdoulilah, vous avez une marge de manœuvre assez large pour chercher les personnes adéquates à qui on remettra cette zakat. En résumé, si le mandant n'a pas désigné de bénéficiaire, vous avez carte blanche pour voir la personne la plus adéquate. Si le mandant a désigné un bénéficiaire, mais que, après enquête de votre part, il s'avère que cette personne, entre guillemets, censée bénéficier de la zakat, ne la mérite pas, parce qu'elle ne répond pas aux conditions de la zakat, elle n'est pas dans le besoin réel. Dans ce cas présent, mieux vaut avertir le mandant, lui demander son accord pour déplacer la zakat à quelqu'un d'autre. Dernière situation, le mandant, par exemple, ou le mandat, donc le mandaté, la personne mandatée est dans l'urgence et elle n'arrive pas à joindre le mandant parce qu'il est peut-être en voyage, il n'est pas là. Dans ce cas, elle essaie d'agir en fonction de ce qui est le plus juste, Inch'Allah Ta'ala. Et bien sûr, le plus juste, c'est de faire parvenir la zakat à celles et ceux qui la méritent, Inch'Allah Ta'ala. Voilà donc, chers frères, chères sœurs, les réponses à ces différentes questions. Une fois de plus, je vous souhaite un excellent mois de Ramadan. Et comme je vous l'ai dit, vous serez certainement très bientôt informés de certaines capsules, Inch'Allah, vidéos qui seront diffusées durant ce mois, en guise de rappel, mais aussi d'enseignement et d'instruction, comme nous l'avons toujours fait avec vous. Encore une fois, Jazakumullah khairan pour votre confiance, pour votre suivi. Vous avez été toujours très nombreux. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée nos œuvres et qu'il nous permette de jeûner ce mois en quiétude et sérénité. Barakallahu fikoum à toutes et tous, et je vous souhaite une agréable soirée et un excellent week-end. Assalamu alaikum wa rahmatullah.